L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Les coulisses de la création documentaire, c'est toute la question de cette première partie de l'EM. Alors pour répondre à cette question, nous sommes avec Sylvie Plugnan, fondatrice des Films de la pluie, installée à Logona. C'est ici donc que dans le Finistère que Sylvie produit des documentaires. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Alors pour bien comprendre, c'est quoi une société de production ?
Une société de production, c'est un producteur, en l'occurrence une productrice, qui va accompagner des auteurs, des porteurs de projets. Alors moi, j'ai choisi de ne produire que du documentaire, mais je pourrais aussi produire de la fiction, de l'animation, du court-métrage, qui va accompagner donc un porteur de projet pour l'aider à écrire son film, déjà, et puis l'accompagner sur toute la phase de création artistique, quoi. Donc voilà, toute l'écriture du film, le tournage, le montage, toute la post-production, et vraiment l'aider à trouver le film qu'il veut faire et aller jusqu'au bout de ce projet. Et donc ça, c'est une première casquette, on va dire. Et la deuxième casquette du producteur, c'est de trouver les moyens financiers de produire ce film. Donc trouver les partenaires. Donc moi, je produis majoritairement en télévision, en audiovisuel. Donc il faut d'abord trouver une télévision qui veut nous accompagner sur le projet. Et puis ensuite, trouver les partenaires financiers pour monter un budget. Et ensuite... dépenser ce budget, on va dire. Voilà.
Alors, pour mettre au clair, qu'est-ce que vous produisez ? C'est des documentaires ou des films d'auteur ?
Ce sont les deux. En fait, on parle de documentaire de création ou documentaire d'auteur. Donc, pour moi, c'est vraiment la même chose. Et là où je fais la différence, c'est vraiment avec plutôt du reportage, où là, on a un regard plus journalistique, on va dire. Sur le documentaire d'auteur, on a vraiment un auteur de film derrière qui va mettre sa patte et qui va mettre... quelque chose de lui-même dans le film. C'est plus ou moins présent, ça dépend des films. Il y a des films qui sont très intimistes, où là, effectivement, l'auteur va être de fait très présent dans le film. Et puis, il y a des films qui le sont moins, mais qui, pour autant, ont quelque chose vraiment de l'auteur derrière. Et c'est, pour moi, c'est un film d'auteur, c'est un film qui ne serait pas fait du tout de la même manière par un autre, en fait. Voilà.
Donc, film d'auteur ou documentaire, c'est pareil.
Bah pour moi, oui. Moi, je dis documentaire d'auteur. Voilà.
Alors, c'est bah justement, qu'est-ce que vous avez produit, par exemple, en 2019, qui aurait pu peut-être attirer l'attention et attirer l'œil ?
En 2019, j'ai produit un film qui s'appelle Nouf Nouf, qui est un film malgache, d'un auteur malgache. Qui est l'histoire d'un coiffeur à Madagascar, dans les bas quartiers de Madagascar, de Tamatave, qui est une ville portuaire à l'est de Madagascar, et qui se fait expulser, qui se fait détruire son salon de coiffure par la municipalité, et qui, voilà, pendant tout le film, passe de salon en salon, alors à un peu des salons de fortune, et cherche le salon en dur qui va lui permettre de s'implanter et de travailler. Et ce film-là a beaucoup tourné, continue beaucoup à tourner. Il a été primé à Paris, au Festival Cinéma du Réel, qui est un festival vraiment important pour le documentaire. Et puis, il est beaucoup sélectionné en ce moment. Et là, il va faire une petite tournée aux États-Unis. Enfin, et là, pour le coup, puisqu'on parlait de documentaire d'auteur, donc Michael Andrianelli, qui est le réalisateur, a fait ce film en lui mettant vraiment, en mettant de lui et de ce qu'il veut. De ce qu'il veut montrer de Madagascar. C'est pas du tout un film journalistique, c'est vraiment un film en immersion avec Roméo, qui est donc le personnage, et qui... alors, il y a aussi de la mise en scène, parce qu'il veut amener aussi certaines séquences dans son film. Il veut amener son personnage vers une résolution, on va dire.
Et, est-ce que la mise en scène ne dénature pas la réalité ?
Non, parce que c'est de la mise en scène... qui est faite à partir du réel. En fait, voilà, par exemple, il va pouvoir, dans le salon de coiffure, si on parle de mise en scène, c'est proposer aux gens qui sont là de parler de politique. C'est un film où il veut amener les gens à parler politique. Donc la mise en scène, elle est là, ce qui n'est pas une énorme mise en scène. C'est juste, aujourd'hui, j'aimerais bien que dans le film, il y ait une séquence qui parle de politique. Voilà. Après...
Donc c'est focalisé sur un angle.
C'est, voilà.
C'est du journalisme, alors ?
Ah non, c'est pas du tout du journalisme, puisque... C'est des gens qui sont libres, enfin en journalisme aussi, mais sont des gens qui d'eux-mêmes vont dire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas interrogés, mais la mise en scène dans un film documentaire, ça peut être ça. Alors ça peut prendre plein de formes, mais ça peut être ça. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, on puisse créer une séquence, autour de la politique malgache. Mais après, vous en faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, moi je ne vous interviewe pas... Voilà. Donc c'est des films qui se font aussi avec les personnages, pas sur les personnages. Voilà. Michael, il a fait un film avec Roméo, par exemple.
La caméra, en fait, est un œil externe qui est là, et sans être là, en fait. On ne doit pas...
C'est ça.
Pour les protagonistes...
Alors, pour réussir ça, ça prend beaucoup de temps. Et lui, il a passé 2 ans et demi à d'abord repérer les lieux dans lesquels il voulait tourner, et puis à tourner, quoi. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps, en fait, le documentaire. Beaucoup. Et notamment pour cette raison-là, qui est qu'on ne débarque pas avec une caméra juste pour prendre de l'information, qui est... plutôt du coup journalistique, on est là, on prend du temps, on prend la confiance aussi des personnes qu'on veut filmer, et puis voilà, on va chercher ce qui est le mieux pour raconter le film, mais voilà, tout ça prend du temps, et on laisse le temps aussi aux gens, en fait.
Est-ce que le réalisateur attend de la productrice, en l'occurrence, un regard artistique ou un regard critique ?
Oui, oui. Enfin, c'est en tout cas une des missions du producteur, de la productrice, d'avoir... alors, critique... oui, critique dans le sens... regard un peu plus distancé peut-être, un peu plus extérieur, parce que le réalisateur ou la réalisatrice va être plongée dans son film pendant 2, 3, 4 ans parfois, et à un moment on ne sait plus quoi, on a passé beaucoup de temps à l'écrire, beaucoup de temps à le tourner, à le monter, et par moment on ne sait plus ce qui est bien, ce qui fonctionne, ce qui est compréhensible des fois aussi, est-ce que quelqu'un qui ne connaît rien au projet peut comprendre ce qu'on raconte là, et du coup le producteur permet aussi d'avoir ce regard là plus extérieur quoi, d'arriver à un moment du film, de le voir et de dire, voilà, j'ai l'impression que ça fonctionne, que ça fonctionne pas, peut-être que tu pourrais creuser cette question-là, etc.
Alors, pour en revenir au film de la pluie, vous êtes installé sur Logona. Est-ce que c'est un défi d'installer une société de production à Logona ? Est-ce que c'est pas trop loin de Paris ?
Non.
Où on s'imagine que les trucs se passent à Paris.
Oui, bah oui, beaucoup de choses se passent à Paris, mais en région, il se passe aussi beaucoup de choses, et notamment en région Bretagne, qui est quand même très active au niveau de l'audiovisuel et du cinéma. Moi, je suis native de Bretagne, mais je suis partie pas mal d'années en Ardèche, travailler là-bas en production, et quand j'ai décidé de revenir, je savais que j'arrivais dans une région quand même forte, de ce point de vue-là. Et non, je pense ma société, je l'ai créée en 2014, on est en 2020, enfin que ce soit en 2014 ou en 2020, je pense que c'est assez facile, enfin c'est pas plus dur qu'ailleurs, je pense. Je pense qu'il y a 30 ans, c'est un défi que j'aurais sans doute pas relevé. Aujourd'hui, on travaille quand même énormément sur Internet. Moi, je travaille avec l'Afrique, par exemple. Je produis plusieurs films avec l'Afrique. Tout se fait via WhatsApp, Facebook, Messenger, les emails, etc. Donc ça, c'est assez facile. Après, se déplacer à Paris, ça devient aussi assez facile. On est à 3h30 de train. Voilà. Et en étant à Logona, on est quand même très proche de l'aéroport. Moi, je prends assez facilement l'avion pour aller à l'étranger, pour aller dans le sud de la France. Donc voilà, c'est un défi que j'ai osé relever en 2014, mais qui n'était pas très difficile à relever, que je n'aurais pas fait.
Et en même temps, ça ne doit pas un petit peu impacter aussi c'est vos choix éditoriaux, parce que quelque part, vous faites des choix aussi. Est-ce qu'ils ont pu être influencés par le fait d'être installés comme ça, là, tout à l'ouest ?
Non, pour la majorité des films, non, je ne crois pas. Je choisis des films pour ce qu'ils racontent. Je choisis des films parce que j'ai des coups de cœur sur des réalisateurs ou des réalisatrices, enfin, vraiment pour leur proposition artistique. on pourrait dire qu'il y a un film qui a été surtout influencé par mon lieu de travail et mon lieu de vie, qui est donc le film D'escale en escale de Tanguy Alanou, qui est un réalisateur de l'hôpital Canfrout. Donc on habite à Vol d'Oiseau, à 4 km je pense, et qui a tourné donc un film à Ouessant. Je pense que lui, pour le coup, j'ai choisi de travailler avec lui parce qu'on était voisins et que je trouvais ça chouette de travailler localement. Et là, pour le coup, on a travaillé très très localement.
Alors pour les documentaires, ces documentaires que vous produisez, ils ont une vie. Ils partent de l'initiative des réalisateurs qui viennent vous voir, du coup, pour les accompagner sur la sortie d'un documentaire. En termes de diffusion, qu'est-ce qui va vous intéresser, vous, plus particulièrement avec les films de la pluie? Quels sont les secteurs de diffusion, quoi?
Alors moi, comme je le disais, je travaille avec les télévisions, parce qu'on a vraiment en production, il y a vraiment deux systèmes en France, produire via le cinéma ou produire via la télévision. C'est encore assez cloisonné, on va dire, même s'il y a des petites passerelles qui se font de plus en plus. Donc la première diffusion du film, c'est la télévision. Je travaille beaucoup avec les chaînes locales de Bretagne, TBO, TB Sud, TV Rennes, avec France 3 Bretagne, avec d'autres chaînes locales en France, et puis avec un petit peu France 3 National aussi. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif, c'est la diffusion à la télé.
C'est celle qui aura le plus d'impact en termes de public ?
Non, parce que le documentaire à la télévision, hormis sur les chaînes locales qui diffusent en prime time, France 3 et d'autres chaînes diffusent souvent le documentaire en deuxième partie de soirée. Donc ce sont quand même des chaînes importantes qui ont pas mal de spectateurs, mais qui ont moins de spectateurs à 23h, évidemment. La deuxième vie, on va dire, du documentaire, même si ça se fait un peu en parallèle, pour moi, c'est vraiment les festivals qui vont permettre d'aller vers un public spécialisé, du coup. Mais aussi vers le grand public pour certains festivals qui sont très axés grand public. Et là le documentaire peut vraiment trouver un deuxième souffle, on va dire, et se faire remarquer.
Dans l'ordre, c'est plutôt d'abord les chaînes locales, puis après les festivals.
Oui, en fait, en général, sauf exception, mais en général, puisque le diffuseur de la télévision est partenaire du film, normalement, la première sortie du film se fait à la télévision. Alors après, on peut faire des avant-premières en cinéma, par exemple, mais la première diffusion du film se fait en télévision.
Est-ce qu'un producteur peut compter sur le web pour la diffusion des documentaires? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer, est-ce que ça existe, des plateformes de streaming dédiées aux documentaires?
Oui, alors il y en a une dont je suis très proche, puisqu'elle est en Ardèche et que c'est là que j'ai travaillé très longtemps, qui s'appelle la plateforme Tunk, qui est spécialisée dans la diffusion de films documentaires d'auteurs, donc, qui se fait sur abonnement. Donc moi, je pense que la plupart des films que j'ai produits sur les films de la pluie ont été achetés par la plateforme. Et puis en Bretagne, on a une plateforme qui s'appelle Cube, qui est un web média breton, qui aussi œuvre à diffuser les films documentaires, pas seulement les films documentaires, mais c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, et qui permet aussi de toucher un plus large public, quoi.
Et c'est quoi les indicateurs de réussite sur un doc? Qu'est-ce qui vous dit à la fin « Ah, ça c'était cool, ça a bien marché » ?
Alors, pour moi, c'était cool et ça a bien marché, c'est pas la même chose, en fait. Y a des films dont je suis très contente, où la collaboration avec le réalisateur et l'équipe a été super, mais qui ne marchent pas très bien. Parce que c'est la vie du film qui est comme ça, et il y a des films où c'était super aussi et qui marchent très bien. Voilà, pour moi c'est vraiment deux choses. Donc ce qui me fait dire que c'est cool, c'est ça, c'est la collaboration qu'il y a pu avoir avec un réalisateur, la proximité qu'on a pu avoir, les échanges, la place qu'a pu me laisser un réalisateur aussi sur la création de son film, parce que un réalisateur, il porte un film pendant plusieurs années, c'est un peu son bébé, donc pour certains c'est plus dur de lâcher le bébé que pour d'autres, quoi. Donc le producteur, il essaye de faire sa place. Bon, moi j'ai de la chance, je travaille avec des réalisateurs qui me laissent une belle place, et donc ça marche plutôt bien, aussi parce que je m'engage aussi peut-être avec des gens où je sens qu'il va y avoir cette collaboration, cette proximité, et ça marche très bien. Et après L'autre question de un film qui marche bien, bah, c'est un film qui se fait repérer. C'est un film qui a des prix, ça c'est toujours intéressant, mais pas que, qui a des sélections
aussi
et des bonnes critiques. Ouais, voilà.
Alors, dans votre cas avec les films de la pluie, est-ce que vous êtes initiateur de projet ou accompagnateur ?
Non, moi je crois que j'ai jamais été initiatrice de projet. J'ai toujours été plutôt accompagnatrice. Ce sont des réalisateurs qui ont des projets de films et qui viennent me les proposer parce qu'on se connaît ou parce qu'ils ont entendu parler de moi ou parce qu'ils ont vu des films que j'ai produits qui leur ont plu et ils se disent « Tiens, je vais aller voir cette productrice-là, j'allais la rencontrer. » Mais non, je n'initie pas de projet. J'ai des coups de cœur pour des projets qu'on me propose, quoi.
Parce que un producteur peut parler au bout de 6 ans d'activité. Vous parlez d'un catalogue de films que vous avez que vous avez produit. Est-ce qu'il y a un point commun entre il y a une ligne conductrice, quelque chose qui pourrait définir finalement toutes les productions des films de l'appli, quoi.
Ouais, en dehors du simple terme de documentaire de création, documentaire d'auteur, moi je suis souvent intéressée par les portraits. Alors c'est un peu réducteur de dire portrait, mais je me rends compte que dans mes films j'ai besoin d'humains. Souvent. Ce ne sont pas forcément directement des portraits d'une personne, mais j'aime beaucoup qu'il y ait un humain comme ça qui ressorte et qu'on parte à la rencontre de quelqu'un. Donc, c'est le cas de ce coiffeur malgache dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment une rencontre et une belle rencontre. C'est le cas d'un film qui s'appelle L'Esprit des lieux, dont on va parler, qui donc est autour d'un chasseur de sons, même s'il n'aime pas beaucoup se définir comme ça, qui est une vraie rencontre avec cet homme. Qui fait des choses assez magiques avec le son. Voilà, j'aime ça. Là, je suis en train de lancer la production de plusieurs films qui, à chaque fois, sont des rencontres avec, avec des humains. C'est un peu réducteur de le dire comme ça, mais j'ai l'impression que c'est ce qui fait le lien entre les différents films que je produis. Ouais.
Bon, on va faire un petit focus justement sur L'Esprit des lieux, film que vous avez produit avec les films de la pluie. Il a été projeté à longueur d'onde, au festival Longueur d'onde l'année dernière. Alors c'est l'histoire de Marc Namblard, qui est guide et audio naturaliste et qui est chasseur de sons. C'est complètement fou, quoi, de faire un film documentaire. Alors donc, on parle d'un film documentaire, sur le format, on est sur plus d'une heure.
Alors il y a deux formats sur ce film, il y a eu un format du coup pour la télévision et un format pour le cinéma. Voilà, donc 52 minutes et puis 90 minutes.
C'est complètement dingue de partir sur enfin, il y a de quoi faire, j'imagine, sur le portrait d'un chasseur de sons, quoi.
C'est ça. Alors du coup, c'est pas vraiment un portrait, c'est un film avec, on va dire. En fait, moi, quand je parle de ce film, je dis que c'est un film sur le son, ce qui est aussi assez réducteur, mais pour moi, c'est vraiment une expérience d'écoute, ce film. Et on l'a vu en salle, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, c'est donc l'histoire d'un homme qui est Marc, qui vit dans les Vosges et qui part à la récolte, on va dire, puisqu'il n'aime pas trop s'appeler chasseur, qui part à la récolte de sons de la nature. Donc il passe des nuits en forêt, enfin il enregistre plein de sons de la nature. Et bon, il y a des séquences assez emblématiques du film, par exemple qui est le brame du cerf. Et donc bon, il y a toute une création assez esthétique aussi dans ce film, autour de... Enfin, que ce soit à l'image ou au son, il y a vraiment un gros travail là-dessus. Et donc, de le voir en forêt, dans la pénombre, et entendre ce brame qui arrive, moi, j'en ai la chair de poule à chaque fois que je l'entends, je pense, quoi. Donc voilà, c'est un film sur ça, et puis sur cet homme qui collecte ses sons, qui initie sa fille à l'écoute des sons de la nature.
Il y a le côté transmission aussi.
Ouais.
Quoi.
Et sachant que lui a reçu aussi cette passion du son de son père, qui lui n'enregistrait pas les sons de la nature, mais qui enregistrait les scènes familiales, qui posait des micros comme ça au-dessus de la table. Et, puis, et donc il a des sons de son enfance comme ça, ou que tout le monde... Moi, je rêverais d'avoir ça de mon enfance, quoi. Il a des scènes de repas, de vaisselle, d'engueulade avec son frère quand il avait 8 ans, quoi. Donc
ça
voilà,
des pièces à conviction à ressortir lors d'une prochaine engueulade.
Et donc voilà. Et puis, en plus de tout ça, il travaille avec d'autres artistes. Et donc, dans le film, il travaille avec un compositeur qui s'appelle Christian Zanesi. Il travaille avec un chorégraphe qui s'appelle Anthony Laguerre. Et donc, voilà, ces sons de la nature servent à d'autres créations artistiques. Enfin, c'est vraiment un travail... C'est un travail de fourmi et c'est un travail... un travail très, voilà, très, très artistique. Quoi.
Parce que le film a eu une super critique.
Oui. Ouais.
Aussi récompensé sur des festivals.
Oui.
C'est un film qui a eu quelque part. Est-ce qu'il a exploité tout son potentiel sur tout ce qui est radio? Il aurait pu aussi faire l'objet d'une diffusion radio?
Une diffusion radio, pourquoi pas? En fait, c'est drôle parce que dans ce film, à certains moments, on se dit qu'on pourrait fermer les yeux. Les réalisateurs, Stéphane Manchematin et Serge Teilleur, avaient imaginé d'ailleurs à un moment peut-être qu'il pourrait presque y avoir des séquences presque dans le noir, en fait, puisque c'est le son. Et le son au cinéma n'est pas toujours à égalité avec l'image. Eux, c'était vraiment ça, travailler le son autant qu'on travaille l'image. Et du coup, on se pose la question à certains moments, effectivement, où c'est un film pour certaines séquences qui pourraient se regarder les yeux fermés. En même temps, il y a vraiment un gros travail sur l'image. C'est un film qui est beau, qui est visuellement, qui est très très beau. Et du coup, voilà, 90 minutes à la radio, je sais. Enfin, en tout cas, il n'a pas été pensé pour ça, quoi. Je ne sais pas si ça tiendrait. Mais si on dit exploiter tout son potentiel, il y a une sortie salle qui a été assez confidentielle, où on regrette un peu que ça n'ait pas attiré plus de spectateurs. Après, c'est un film quand même qui a pas mal tourné en festival, qui a fait des gros festivals, qui va sortir en DVD, Blu-ray très prochainement.
Bah c'était la question d'après, parce que comment on peut le voir et l'entendre, ce film?
Oui, on peut... Alors, il fait encore quelques projections ponctuelles, accompagnées par les réalisateurs ou par Marc. Bon, là, j'en ai plus en tête, mais il a fait pas mal de projections encore sur le mois du doc, et puis voilà, régulièrement en France, il tourne un peu. Et puis, il va sortir en DVD, Blu-ray et CD, du coup, avec des sons originaux de Marc, et la composition la composition musicale par le compositeur Christian Zanesi. Donc on sort un coffret là, courant février.
Alors on en a aussi parlé dans l'émission, là c'est l'Escale, le documentaire tout récemment sorti qu'on a pu voir sur les chaînes locales.
Et sur France 3.
Et sur France 3 aussi. aussi. Alors c'était l'histoire du couple Tiersen qui a eu l'idée super génial de réhabiliter l'ancienne boîte de nuit de Wesson en un lieu de création et de concert aussi. Alors, il en est où de ce documentaire dans sa vie?
Alors, ce documentaire, donc, il a été diffusé en décembre sur les chaînes qui étaient donc les partenaires du projet dès le début, donc les chaînes locales et France 3 Bretagne. On a fait plusieurs avant-premières à Ouessant, évidemment, à Châteaulin. Et puis là, on en est à la période où on l'inscrit en festival pour voir si ça peut intéresser des programmateurs. Et puis, il y a déjà d'autres projections ponctuelles qui sont calées, donc notamment au Fou, quand même, il faut le dire, le 15 février, excusez-moi. C'est passé le 15 janvier. Donc le réalisateur sera présent. Et puis, il y a des projections qui sont calées au mois de juin. Alors, ce n'est pas tout de suite, mais qui sont calées à Brest, notamment, au mois de juin, avec en partenariat avec la Cinémathèque et puis Zoom Bretagne. Et puis, voilà, d'ici là, il faut qu'il fasse sa vie tout seul aussi. Et sa vie pourrait se faire, en tout cas, dans un circuit de festival.
Ouais. C'est ça qu'on apprend, c'est que du coup, il candidate sur des festivals.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est loin d'être fini, l'Escale.
Ah oui, on espère que c'est loin d'être fini, ouais. La vie d'un film, souvent après sa sortie, c'est quand même un an, deux ans au moins, quoi, sur la grosse période. Et puis après, c'est plus discret, mais il continue, en général, les films continuent à tourner dans des médiathèques, sur des projections ponctuelles.
Parce que le documentaire L'Escale est sorti fin 2019.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous attend pour la première partie d'année 2020?
Sur les autres films ou...
Ouais, sur les autres films.
Sur les autres films. Là, on vient de terminer un film qui s'appelle Je veux vivre avec vous, qui a été tourné à Rennes avec des demandeurs d'asile qui participaient à un atelier de théâtre pour apprendre le français. apprendre le français et puis repartir, quoi, rebondir, rencontrer des gens, prendre confiance, etc. Donc ça, c'est un film qui va être diffusé au printemps sur les chaînes locales et qui va avoir son avant-première à Rennes le 28 février, j'en profite pour le dire, au Ciné TNB à 20h30. qui va aussi, on espère, avoir une vie en festival. Donc c'est pareil, là, en même temps que d'escale en escale, on inscrit donc, le film de Christelle Ménez, qui est la réalisatrice de Je veux vivre avec vous, pour voir si des programmateurs de festivals peuvent être intéressés.
Ok, voilà. Ça c'est le gros dossier pour début 2020.
Pour début 2020, c'est le gros dossier. Et puis après, il y a 4 ou 5 films en chantier, quoi, en tournage ou en écriture. Enfin, ils sont tous à différents stades.
Et ben, faudra revenir pour nous en parler.
Exactement. Rendez-vous dans un an pour faire le point.
Merci beaucoup Sylvie Plugnan. Et on le rappelle, vous êtes fondatrice et gérante des Films de la Pluie, une société de production de films d'auteurs et de documentaires. Et donc la prochaine projection de l'Escale, c'est donc le 15 février au Fou.
Tout à fait.
Et ben voilà. Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup.